Bonjour, oula,
Waouh! Ah, c'est plus fort que ce que je pensais quand même. C'est super. Ça réveille en même temps. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis Christian Clos. Je suis directeur du Human Adaptation Institute, qui est un institut de recherche spécialisé dans les capacités humaines d'adaptation et de changements comportementaux. Donc, on va en parler un tout petit peu et puis on va parler de ce que ça va vouloir dire cette prochaine mandature, ces 6 prochaines années. Qui vont impacter énormément notre manière de fonctionner, de vivre, mais je vous en parlerai un tout petit peu. Donc, mon travail, il est mené par mon institut de recherche et tous les travaux que je vais vous montrer sont menés en collaboration avec beaucoup d'instituts et de collaborations scientifiques. Donc, on est plusieurs à travailler sur ce domaine et les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont un travail de collectif avec tous ces instituts. Notre travail, il se situe dans des conditions réelles de vie. On ne travaille que sur des humains qui vivent dans des situations de leur vie de tous les jours. Ça peut être en entreprise, ça peut être dans des conditions externes, ça peut être des migrants, ça peut être des personnes qui ont transformé leur vie pour passer de la ville à la campagne ou vice-versa. Ou une situation comme la Covid. On a monté une grosse étude qui a suivi pendant 18 mois les impacts Covid sur la citoyenneté. Donc voilà un peu nos travaux. Et puis on travaille aussi sur des conditions extrêmes de type tsunami, on était en 2004 en Indonésie, de type malheureusement grande migration, ici on est au Bangladesh, sur des grandes transformations. Donc on essaie d'accompagner ces populations à la fois pour comprendre les mécanismes qui sont en jeu pour les aider un peu mieux, soit pendant la période, soit plus tard. On travaille aussi beaucoup en France depuis quelques années sur les notions notamment de grande chaleur. On va en parler aujourd'hui parce que ça va être vraiment l'enjeu de ces 10 prochaines années que de prendre en compte les enjeux de la grande chaleur. J'y reviendrai pas mal. Et puis à côté de ça, on mène des expéditions d'aller beaucoup plus spécifiquement chercher des fonctions de transformation. Notamment, on s'est rendu 15 jours dans une grotte, pendant 40 jours dans une grotte avec 15 personnes, par exemple, pour voir comment le système cognitif réagissait quand on lui coupait les informations. C'est intéressant parce que ça fait partie aujourd'hui d'un des problèmes qu'on a. Et puis aussi, je travaille avec des populations que j'emmène dans des climats différents pour pouvoir étudier spécifiquement les impacts de typologie climatique, la chaleur, le froid, l'humidité et autres, sur des populations. Donc, tous les travaux qu'on mène sont menés dans ces situations, principalement en neurosciences cognitives, sociologie, microbiote, génétique, et globalement psychiatrie, psychologie. Voilà en gros, donc on a travaillé dans toutes les conditions les plus extrêmes. Pourquoi on travaille en conditions extrêmes? Parce que c'est un simulateur accélérateur. En quelques jours, on voit ce qu'on verrait en plusieurs mois, voire années dans nos populations, dans nos civilisations. Donc on va travailler dans du moins 60 degrés, du plus 60 degrés, du 100% d'humidité, du 0% d'humidité. Et à chaque fois, on va pouvoir aller chercher certaines fonctions d'adaptation et d'essayer de comprendre comment elles s'ajustent ensuite dans nos sociétés, ici en France ou en Europe. Je vais juste mettre cette image parce que là, je suis à 58 degrés à l'ombre. Et comme on va parler pas mal de chaleur, je vais juste vous dire ce que ça veut dire. 58 degrés à l'ombre, et vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Le sol, au moment où je prends cette photo, est à 90 degrés. Et à cette température, si vous avez une gorgée d'eau, elle s'est évaporée du corps avant d'avoir atteint l'estomac. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on refroidit un corps humain ou animal en général dans des conditions de chaleur comme ça? 58 degrés, on ne les connaîtra certainement jamais en France. La question ne se pose pas. Mais on sait, par exemple, qu'au Pakistan, on a vécu pendant 3 semaines de suite à 52 degrés, au Mexique à 51 degrés pendant 2 semaines et demie, et que pour la première fois de l'histoire connue de l'étude de la chaleur, on a vu des singes tomber des arbres, ne plus pouvoir s'accrocher. Parce que l'appréhension fine disparaît à ces températures. Et ça, ce sont autant de petites choses d'alerte qu'on a étudiées, qu'on essaie de comprendre pour savoir comment on allait pouvoir faire face à ces conditions. Donc moi, mon métier, au-delà de tout ça, c'est de chercher à comprendre les adaptations comportementales humaines. En gros, si je schématise, comment est-ce qu'un humain se transforme ou pas? Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui accélère la capacité d'un humain à se transformer? En gros, un humain, un système humain, un système biologique, fonctionne dans une osmose avec son territoire. Donc, en gros, on est en équilibre avec le système qui nous entoure, quel qu'il soit. Ça peut être votre entreprise, ça peut être l'écologie, ça peut être votre vie de tous les jours. Un jour, il se passe quelque chose qui va transformer votre système, soit parce que vous aurez décidé de le transformer, soit parce que vous aurez un impact transformateur indépendant de vous, et vous êtes en déséquilibre. Ça veut dire que vous êtes en souffrance, en incompréhension. Vous avez une difficulté mentale ou une difficulté physique. Et votre but en tant qu'humain, ça va être de rééquilibrer quelque chose pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle osmose dans la nouvelle situation que vous vivez. Ça, c'est l'adaptation. C'est très schématique ce que je viens de vous dire là, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est très schématique. La notion qui est importante dans la notion d'adaptation, c'est le concept d'équilibre des ensembles. Si on est en équilibre, ce n'est pas seulement pour nous, ça veut dire que l'ensemble de l'écologie qui nous entoure doit avoir le même équilibre pour pouvoir fonctionner en osmose. Et on tombe là dans deux problèmes, l'over-adaptation d'une part et la maladaptation d'autre part. L'over-adaptation, c'est qu'on utilise plus de ressources que ce que l'environnement écologique peut nous fournir et que pendant un temps, on a l'impression d'être adapté, mais qu'en réalité, il y a un jour où on a terminé la ressource et on tombe. Ça veut dire que ça fait 200 ans qu'on n'est plus adapté en tant qu'humain à nos systèmes écologiques. Et la maladaptation, vous connaissez ça sans doute un peu mieux, c'est d'utiliser un système dit adapté qui en fait crée un problème ailleurs. Et donc, ce n'est pas une adaptation fonctionnelle. Et nous, on travaille beaucoup sur la pré-adaptation. L'adaptation qu'on pourrait considérer comme anticipative, c'est la capacité qu'on aurait en tant qu'humain de changer des comportements aujourd'hui pour avoir une influence sur quelque chose qui n'existe pas encore mais qui existera demain. Ça, c'est la pré-adaptation. Et c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus dans mon institut. Ça voudrait dire qu'on serait capable de changer des choses dans notre comportement pour pouvoir faire face au futur. Et ça, dans la deuxième partie de la conférence, on en parlera un peu plus parce que je vais vous donner quelques indicateurs sur comment cette pré-adaptation est possible, puisque finalement, c'est tout l'enjeu de nos sociétés actuelles. Tout ça, ça nous amène à pourquoi on parle d'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, on fonctionne sur un système relativement récurrent depuis à peu près 500 ans qu'on étudie les systèmes de changement. C'est qu'on étudie, on attend qu'un événement se passe et sur cet événement, on va commencer à mettre en place des réponses. La fameuse résilience dont on parle beaucoup, on fait de la résilience à l'événement. On va essayer de se stabiliser, hein, sur cet équilibre. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on a fait ça en tant qu'humain? Eh bien, on cherche à revenir à ce qu'on avait avant. Ça, c'est le schéma quasiment constant de nos fonctionnements. Et on n'a pas beaucoup de contre-exemples à ce schéma-là. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit basculer dans un schéma adaptatif qui est de prendre une décision. Qu'est-ce que je veux pour un futur? Pour quel que soit, hein, que ce soit le futur climatique, le futur de votre entreprise, le futur de votre vie, de votre famille. Quelle est la décision que je veux mettre en place? Comment je génère la volonté de le faire? On en reparlera un petit peu en deuxième partie. Comment est-ce que j'anticipe tout ce qui peut arriver et comment ensuite je peux générer un nouvel état avant que la difficulté soit là. Ça, c'est vraiment le schéma qu'on doit être capable de redéfinir puisque si on continue d'attendre les crises, on aura quelques problèmes de fonctionner pour passer d'un monde à l'autre, le monde d'aujourd'hui versus le monde de demain. On a deux solutions pour le monde de demain. Soit on attend qu'il vienne et on gère une fois qu'il est là, soit on le prépare. Non pas simplement en se disant, bah, tiens, j'aurais besoin de plus de ci, de ci ou de ça, mais de qu'est-ce que je dois transformer moi pour que ce monde corresponde à un besoin qui est collectif. Quand on travaille sur le changement, on constate qu'aujourd'hui, on a quand même un besoin très nouveau. Et c'est pour ça que je m'arrête un peu dans cette conférence sur l'adaptation et sur la préparation des 6 années qui viennent pour les futurs élus et les futures municipalités. Quand on classe les changements, on peut les classer en 3 catégories. Des changements systémiques qui vont vous toucher quasiment toute la société. Vous avez des changements environnementaux, ça vous les connaissez bien, vous êtes ici pour ça. Vous avez des changements technologiques qui vont tout d'un coup tout faire basculer et on est en train de vivre un majeur avec les LLM et les AI Gen. Et puis on a les changements sociétaux qui depuis quelques mois aujourd'hui sont en cours de manière assez profonde. Si je vous montre ça, c'est pour comprendre une chose. On a déjà vécu tous ces changements. L'humain a déjà vécu des changements d'environnement, des changements de technologie, des changements sociétaux. Mais jamais de manière concomitante à l'ampleur où on les vit aujourd'hui. Donc la notion de changer et de s'adapter, elle est devenue fondamentale aujourd'hui. Parce qu'en plus de ces changements-là, eh ben vous avez vos propres changements personnels. Si je vous pose la question, on ne va pas faire des quiz aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a qu'une demi-heure pour une conférence. Mais je vous pose quand même la question, quel est le changement le plus impactant pour un individu humain dans sa vie? Et on va tous penser à des tas de choses. Et ben le changement qui provoque le plus de modifications cognitives, c'est l'arrivée du premier enfant. Voilà. C'est ce qui change le plus sur la vie d'un humain. Tout se transforme après l'enfant. Donc on voit bien là que la qualification du changement n'a pas beaucoup d'importance. c'est le fait qu'un changement s'opère qui va obliger l'adaptation. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va la générer pour éviter la douleur potentielle et le trauma potentiel de ce changement. Si on parle de trauma, ce n'est pas pour rien. Hein, c'est qu'aujourd'hui, 42% des femmes à minima sont identifiées comme postpartum après l'arrivée du premier enfant. 42%. Donc, un événement qui pourtant, normalement, est plutôt très positif, provoque aujourd'hui des fonctions cognitives très négatives chez 42% de personnes. C'est quand même majeur. Alors, évidemment, après, ça se résout, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie juste de vous dire que la qualification du changement n'a pas beaucoup d'importance. La seule question, c'est comment votre cerveau, et quand je parle de cerveau, je parle de l'ensemble du système nerveux, hein, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la tête, c'est ce qu'il y a dans le ventre, dans le dos, enfin partout, peut réagir. Et ça, c'est important parce qu'on va vivre les 6 prochaines années, et je dirais même encore plus, mais ces 6 prochaines années vont être quand même assez clés, d'une forme d'adaptation nécessaire continue parce que les enjeux sont gigantesques. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est vraiment la chaleur. Je vais passer juste 3 minutes là-dessus parce que je pense qu'on a une chambre climatique mobile qui simule le climat à 50 degrés. Et en gros, on a quand même cette situation, c'est que quasiment le 3/4 des gens qui viennent nous voir avant d'entrer dans la chambre nous disent « Non mais moi, je sais ce que c'est la chaleur. J'ai déjà vécu la chaleur. 50 degrés, je connais. » Et on les fait vivre la chambre climatique et 100% nous disent à la sortie « Ah mince, c'était ça la vraie chaleur ?» Parce qu'en fait, on n'a jamais vécu ces températures pour la plupart d'entre nous. Donc en fait, on a une fausse idée de la chaleur et de l'impact global que ça a. On parle de plus 3 degrés de moyenne, mais en fait, je crois qu'on fait on n'arrête pas de parler de 1,5, 1,2, 1,5, 2 degrés, 3 degrés. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Rien pour les gens. Ce sont des moyennes mondiales. Mais pour vous ici et pour moi ici, ça veut dire des pics de température de plusieurs jours à plusieurs semaines qui vont commencer d'abord à dépasser les 40, 45, puis qui vont aller flirter avec le 50 degrés. Et là, on parle de 2050, hein, on ne parle pas de 2100, 2200. Ça a été identifié par le GIEC Sud, Jean Jouzel l'a validé. À partir de 2050, on a du 50 degrés en France. Mais même si on n'a que 45 degrés, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de 2030, c'est pour ça que ce mandat, pour moi, il est majeur, on va commencer à connaître les premières journées constantes à 40 degrés. 40 degrés, c'est une température où le corps ne thermorégule plus correctement. Ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui va impacter l'ensemble de nos systèmes. D'abord, la physiologie. On n'en parle pas beaucoup, mais vous allez avoir une lutte physiologique pour faire face à cette température. Comme je vous l'ai dit, quand vous buvez de l'eau, elle s'évapore, donc ça marche un peu moins bien. Donc, il va falloir faire fonctionner nos systèmes rénaux. Tiens, moi, un truc qui m'a toujours surpris. Est-ce que vous savez combien les reins traitent de litres d'eau par jour? La plupart des gens me répondent 5, 6 litres, 2 litres, 3 litres. C'est 180 litres. 180 litres par jour. Parce qu'évidemment, l'eau, elle passe plusieurs fois par les reins. Le problème, c'est que quand vous avez cette température si élevée, eh bien, en fait, il y a moins d'eau qui passe par les reins. Donc, les reins doivent beaucoup plus essayer de lutter. Donc, ils se fatiguent plus et on commence à avoir une osmotique rénale. Et ça pose quelques soucis. Donc, la physiologie est très impactée, évidemment, par la chaleur. Ce qui est moins connu, c'est la cognition mentale. C'est ce qui se passe dans le cerveau. Eh bien, vous avez des dégradations cognitives qui sont très logiques. Vous pouvez tous le comprendre. Hein. Votre cerveau il est dans une boîte qui est fermée, qui ne transpire pas et qui n'évapore pas de chaleur en direct. Donc, quand il fait chaud dehors, ben, le cerveau il doit lutter pour rester à 36 degrés. Parce que c'est sa température nominale. S'il passe à 37, il commence à se dire « j'ai un problème et je dois réagir ». Et qu'est-ce qu'il fait pour réagir? Ben, il va éviter de produire plus d'énergie, puisque l'énergie, c'est de la chaleur. Il va donc dégrader des fonctions. Et donc, à partir de 37 degrés dans la tête, on va commencer à dégrader de la fonction cognitive. Et ces fonctions cognitives, c'est quoi? C'est la mémoire, c'est des fonctions sociales, et puis c'est des fonctions de concentration. Là, je vous montre une image d'un cerveau dans différentes conditions de température, et on voit que l'Iran, là où il faisait 57 degrés, a une quantité de modifications structurelles du cerveau qui est considérable. Donc le cerveau, il est en lutte, en travail très profond, avec une fatigue mentale que ça provoque, qui est gigantesque. Et bien là, on a vraiment un enjeu de cognition humaine qui va impacter une chose fondamentale, c'est nos sociétés. Puisque faire société demande beaucoup d'énergie au cerveau parce qu'on doit comprendre à qui on parle, on doit savoir ce qu'on dit, on doit comprendre les mots, on doit comprendre les gestes. Bref, c'est terriblement impactant au niveau énergie pour le cerveau de faire société. Et ben, dans la chaleur, la première fonction qui disparaît après la mémoire, c'est la fonction sociale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va moins utiliser certaines codifications, les mots et tout. Je vous montre une petite étude qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'on est ici au Salon des maires. Je pense que c'est important de savoir ce que ça veut dire. On a étudié 28 000 personnes, législateurs, maires, députés, dans 8 pays différents sur 7 millions de discours. Donc, on commence à avoir quand même une catégorie représentative. Et on voit qu'en fonction de la température, chaque degré supplémentaire de température réduit la quantité de mots utilisés, la capacité du langage et la capacité de s'exprimer, et on ralentit le débit du langage. Donc on voit que la chaleur a un impact direct sur notre discours et donc conséquemment aussi notre manière de communiquer et ainsi de suite. C'est qu'un exemple que je vous montre là parmi toutes les autres études qui montrent que dans la chaleur, la fonction sociale diminue. Et puis évidemment, on oublie un petit peu, mais la chaleur elle n'impacte pas que le corps humain. Je ne sais pas si vous avez des chiens par exemple parmi vous. Ben, un chien, à partir de 42 degrés, il ne peut plus thermoréguler. Parce qu'il ne thermorégule que par la bouche. À 50 degrés, vous n'avez pas de chien qui vit en surface normale. Vous allez dans les pays où il y a déjà eu 50 degrés, il n'y a plus de chiens vivants au moment où on a ce genre de température. Donc, ouais, ça peut questionner quand même. Hein. Pareil, je vous donne un autre exemple pour bien comprendre la systémie de la chaleur. Hein. Vous avez 50 degrés à l'extérieur, donc vous avez l'eau qui chauffe, l'eau du Rhône, l'eau de la Seine. Ces eaux qui sont traitées pour qu'on puisse boire, et ben jusqu'à 28 degrés de température de l'eau, vous savez les traiter. À 29, 30 et 31 degrés, on ne sait plus traiter l'eau aujourd'hui en France. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Vous n'aurez pas les agences de l'eau qui vont vous dire « Non, mais nous, on a un petit souci quand même. » Ben oui, à 30 degrés dans l'eau, vous buvez de l'eau qui est potentiellement très polluée. Voilà. Et ça, c'est que quelques exemples. Les puces, les petites puces qu'on a partout dans nos téléphones et tout, en France, elles sont avec de l'or. Donc, à 42 degrés, elle commence à se dégrader, voire arrêter de fonctionner. Téléphone portable, ambulance qui vient vous chercher, qui a 250 puces à l'intérieur, communication, électricité. Bref, globalement, la chaleur, si j'en parle, c'est que parmi tous les autres risques qui sont nombreux, évidemment, c'est le risque systémique majeur qui n'est pas paramétrique. Si vous avez l'inondation de la Seine, par exemple, terrible, hein, une crue de la Seine type de 1910, c'est terrifiant. Ça va toucher énormément de personnes, mais ça va rester paramétré à quelques arrondissements de Paris. Donc tous les autres arrondissements de Paris sont là pour aider les arrondissements touchés. À la chaleur, c'est 100% des arrondissements touchés en même temps. Et l'Île-de-France, et peut-être plus. Donc la capacité de faire soutien dégénère un peu. Donc on comprend quand même, quand on voit tout ça, qu'il faut quand même tout faire aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. La seule adaptation fonctionnelle réelle face à la chaleur, c'est qu'elle n'arrive pas. Parce que quand on aura ça, on pourra évidemment s'adapter, on fera ce qu'on peut, hein, mais on ne sera quand même pas très très bien. Juste pour bien comprendre comment les gens perçoivent tout ça, je vais vous montrer quelques chiffres. C'est vraiment vous êtes les toutes premières personnes à les voir. C'est un rapport qu'on va remettre à l'EIB, qui nous a commandité ce rapport pour l'Europe, sur les impacts de chaleur en Europe. Là, les chiffres que je vous montre, c'est les chiffres France. Dans un moment de chaleur comme la canicule d'août 2025, 68% des personnes dégradent leur capacité de sommeil. En temps normal, c'est déjà quand même 45. Hein. En France, il y a 45% des gens qui dorment mal. Mais dans la chaleur, c'est 68%. C'est-à-dire que vous avez 68% qui dégradent leur capacité à vivre le lendemain d'une nuit de chaleur. Plus intéressant, 30% de la population française, 30%, pense qu'elle devra déménager dans les 15 ans en raison de la chaleur dans son territoire. Vous faites le calcul, hein, 68 millions de Françaises et de Français, 30% qui pensent qu'ils devront déménager, ça va faire un joli exode quand même. Alors rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas 30% qui vont déménager, mais enfin, même si c'est seulement 10%, moi j'aimerais bien voir la tête des Bretons quand tous les Marseillais voudront aller jouer chez eux. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais